Il vous est présenté par Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Emmanuel Macron entre en campagne il y a 3 mois des européennes. Le chef de l'État s'adresse aux Européens dans une tribune. Il propose notamment de remettre à plat l'espace Schengen.
Peut-on guérir du sida jusqu'à présent? La réponse est non. Les personnes séropositives doivent prendre un traitement à vie. Sauf qu'un deuxième cas de probable guérison vient d'être annoncé par des chercheurs. Une personne qui, comme la précédente, a subi des transplantations de moelle osseuse.
L'invité de ce journal sera Marie-Pierre Rimbaud, co-auteur d'un documentaire choc qui passe ce soir sur Arte à 20h50, son titre « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église ». Midi 55, seconde partie de la Grande Table, avec vous Marie.
Et oui, en seconde partie, on reçoit Françoise Fromono, architecte et critique. C'est le deuxième ouvrage qu'elle consacre au quartier des Halles à Paris, et c'est dire combien les enjeux de cette rénovation urbaine dépassent le seul territoire de la capitale française.
On vous retrouve dans 24 minutes.
À tout à l'heure.
À 3 mois des européennes, Emmanuel Macron entre en campagne. Le chef de l'État expose des propositions pour l'Europe dans une tribune diffusée dans les 28 pays membres. Son titre, pour une renaissance européenne. Elle est articulée autour de 3 grands thèmes, la liberté, la protection et le progrès. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Antoine.
Emmanuel Macron tente de répondre au Brexit et au repli nationaliste et il propose notamment de remettre à plat donc l'espace Schengen qui organise la libre circulation des personnes entre 26 pays européens. Une libre circulation devenue très théorique, Louise Baudet.
Oui, sur le papier, l'espace Schengen permet de voyager librement, sans contrôle aux frontières, que l'on soit citoyen de l'Union européenne ou ressortissant d'un pays tiers. Mais dans la pratique, les frontières intérieures subsistent. L'accord permet en effet de rétablir des contrôles exceptionnels, justifiés par une menace grave pour la sécurité. Or, dans plusieurs pays, eh bien, c'est un provisoire qui dure. L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège se protègent très officiellement des migrants. Les autres, sans toujours le reconnaître, font de même. La France, qui a rétabli les contrôles après les attentats de novembre 2015, reconduit le dispositif tous les 6 mois et refoule systématiquement les migrants, notamment à la frontière italienne. Bref, la dérogation devient la norme et le système qu'Emmanuel Macron propose de remettre à plat a du plomb dans l'aile, notamment du fait de la politique migratoire française.
Autre proposition d'Emmanuel Macron, une police des frontières communes qui existe déjà.
Oui, elle s'appelle Frontex, elle est basée à Varsovie. Et elle a vu ses moyens augmenter ces dernières années. Sauf que plusieurs pays traînent des pieds. Il y a 15 jours, les ambassadeurs des États membres se sont certes mis d'accord pour mobiliser 10 000 hommes contre 1 500 aujourd'hui. Mais à l'horizon 2027 et non dès 2020, comme le préconise la Commission européenne. Emmanuel Macron propose enfin la création d'un office européen de l'asile afin d'harmoniser les politiques nationales en la matière. Mais c'est déjà l'objectif du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Surtout, le président français se garde bien d'évoquer le très explosif règlement Dublin qui régit les demandes d'asile et se retrouve au centre des critiques.
Merci Louise Baudet. Dans cette tribune, il est également beaucoup question du Brexit. Emmanuel Macron prend soin de ne pas fermer la porte du Royaume-Uni englué dans ce Brexit qualifié d'impasse. Bonjour Antoine Vignaud, vous
Bonjour.
Êtes notre correspondant à Londres. Sur place, le texte est publié dans le prestigieux Guardian et il suscite bien des commentaires.
Absolument, mais cette lettre publiée par le Guardian, la plupart des journaux la reprennent en fait en intégralité à 24 jours du Brexit, à un moment où les députés britanniques pensent de plus en plus à demander un report, une sortie plus tardive. Le texte d'Emmanuel Macron présente l'Union européenne sous un jour séduisant. Le président français propose d'augmenter les dépenses militaires, il veut créer un conseil de sécurité européen avec la participation des Britanniques, il veut lutter contre la cybercriminalité, le financement des partis politiques par des puissances étrangères, des sujets qui font directement écho à l'affaire Cambridge Analytica et au rôle joué par la Russie pendant la campagne sur le Brexit. Une déclaration conciliante, commente le Télégraphe, une main tendue au-dessus de la Manche est saisie ce matin par Jeremy Hunt. Le ministre des Affaires étrangères le dit, personne au gouvernement ne veut d'une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Il y aurait de trop grandes perturbations. Pas sûr en revanche que ces promesses d'une Europe qui change suffisent à apaiser la colère des Brexiteurs durs. Malgré le plaidoyer pour une refonte de l'espace Schengen, le contrôle des frontières et une gestion globale des demandes d'asile, le Daily Mail parle notamment d'une manœuvre électorale d'Emmanuel Macron qui lui permet de sortir de la crise des Gilets jaunes.
Cette entrée en campagne est aussi une façon pour le chef de l'État de donner une impulsion à la liste de La République En Marche qui vient de bénéficier d'un soutien de poids en la personne de Jean-Pierre Raffarin. Une liste qui est toujours au coude à coude dans les intentions de vote avec celle du Rassemblement National, Steven Goyer.
Et d'après les derniers sondages, en effet, La République En Marche ferait la course en tête à égalité avec le Rassemblement National avec 22% d'intention de vote. Seulement, côté LREM, on n'a toujours pas nommé de tête de liste, même si le nom de la ministre Agnès Buzyn revient ces derniers temps, tout comme celui de Nathalie Loiseau. Mais on a appris par la voix du ministre de la Culture, Franck Riester, invité sur notre antenne ce matin, que cette liste comptera bien des personnalités du parti Agir.
Alors ça sera une liste de rassemblement avec La République En Marche, vraisemblablement évidemment le Modem, peut-être d'autres partis, et Agir, avec des candidats, avec un projet pour lequel on a beaucoup de points communs et avec cette volonté de, encore une fois, rassembler les pro-européens derrière la volonté de refondation du président de la République.
Un rassemblement derrière le président, ce qui peut être un souci pour le professeur de communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, qui pointe, notamment avec cette tribune, une campagne très personnifiée par Emmanuel Macron.
C'est une séquence historique inédite sous la Ve République, où un président de la République va vraiment faire une reconquête de l'opinion seul et enchaîner avec une campagne européenne, seul, sans visage, sans porte-parole, sans tête de liste, avec un attelage LREM Modem, mais qui suit derrière et qui est un petit peu l'intendance, mais il n'y a pas d'autre visage que le sien finalement. Peut-être aussi que la réalité de ce pouvoir, c'est que le président aujourd'hui est finalement aussi peut-être le seul à pouvoir faire ce travail de campagne, qu'il n'est pas entouré et qu'il n'y a personne qui peut prendre la relève.
La liste, elle, ne sera dévoilée qu'à la fin du mois.
Merci Steven Goyer. Peut-on guérir du sida ? Jusqu'à présent, la réponse est non. Les personnes séropositives doivent prendre un traitement à vie, la trithérapie, un traitement lourd et cher. Et si la personne abandonne son traitement, à terme, elle tombe malade. Sauf qu'un deuxième cas de probable guérison vient d'être annoncé par les chercheurs. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Antoine.
Une personne qui, comme la précédente, a subi des transplantations de moelle osseuse.
Oui, on l'a baptisé le cas de Londres. C'est un homme atteint du VIH en 2003, d'abord soigné de façon classique par trithérapie, puis qui a développé une leucémie. Comme le cas de Berlin, un Américain qui lui a guéri en 2007, le nouveau patient a subi une transplantation de moelle osseuse pour soigner son cancer du sein. Or, le donneur de moelle avait été sélectionné pour être porteur d'une mutation génétique qui lui permet de résister au virus du sida. Plus précisément, cette mutation du gène CCR5, qui est normalement l'un des co-récepteurs du VIH, empêche le virus d'entrer dans les cellules hôtes. La greffe a bien pris, le malade n'a plus dans le sang que des cellules du donneur porteuse de cette mutation et sa charge virale a donc totalement disparu depuis un an et demi de son organisme. Voilà pour le principe. La grande question est de savoir si cette guérison peut être une piste de traitement. Michaela Müller-Trudwin est directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Elle explique pourquoi ce n'est pas généralisable.
Avoir une greffe, c'est quand même une intervention médicale très lourde avec beaucoup de risques. Donc là, c'était simplement qu'il y avait l'espoir que peut-être en faisant cette greffe pour la leucémie, on pouvait en même temps essayer de voir si on peut guérir du VIH avec le même traitement.
Mais ça veut dire que c'est trop risqué comme intervention pour le généraliser à tous les gens qui sont malades du sida ?
Ah oui, c'est une intervention très lourde et très dangereuse. En revanche, ça donne de l'espoir qu'une guérison est faisable. On ne savait même pas si c'était possible. Là, on voit que c'est possible de le faire. Donc, il faut que nous, maintenant, au niveau de la recherche, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce patient est guéri, pour après réfléchir peut-être à d'autres thérapies qui ne seraient pas dangereuses pour le patient. Mais ça, c'est une recherche à très long terme.
Il faut savoir que depuis le cas de Berlin, guéri il y a 10 ans, 38 malades du sida atteints également de leucémie ont été traités de la même manière dans le monde. Seul le cas de Londres a vraiment guéri. Pourquoi ? Les chercheurs cherchent encore à l'élucider.
Merci Tara Schlegel. L'intelligence artificielle sera incontournable dans nos sociétés dans les années qui viennent. Les applications sont nombreuses, diagnostics automatiques en médecine, voitures autonomes, robotiques. Les machines seront plus rapides, plus performantes, mais cette révolution à venir pose toute une série de questions éthiques et pratiques. Quelle place donne-t-on aux algorithmes ? Comment les contrôle-t-on ? Qui les contrôle ? Au service de quelles valeurs et quels principes ? Illustration hier au siège de l'UNESCO à Paris, l'agence de l'ONU pour la science, l'éducation et la culture accueillait une série de conférences afin que l'intelligence artificielle se développe au service de l'homme. Les perspectives en la matière sont à la fois enthousiasmantes et inquiétantes, Maxime Tellier.
L'intelligence artificielle promet ni plus ni moins de changer nos sociétés et notre quotidien dans les années qui viennent. En matière de médecine, par exemple, on sait déjà que des logiciels font de meilleurs diagnostics que des médecins spécialistes pour reconnaître des tumeurs sur des radios. L'intelligence artificielle promet aussi le développement des voitures autonomes capables de conduire seules sur la route. Toutes ces innovations promettent des gains de temps, d'efficacité, de productivité et aucune entreprise, aucun État ne veut manquer ce virage. Le développement de l'intelligence artificielle est donc une question stratégique de souveraineté, alors que actuellement les deux plus gros investisseurs sont les États-Unis et la Chine. Des acteurs du multilatéralisme comme l'UNESCO essaient donc de pousser pour un développement plus partagé de l'intelligence artificielle. En Europe, la France se veut aussi moteur. Il y a un an, le député de La République En Marche, Cédric Villani, avait remis un rapport au gouvernement dans lequel il préconisait de renforcer les coopérations avec les pays européens comme l'Allemagne, de développer des laboratoires de recherche, d'inciter les étudiants à choisir ce secteur aussi. Un an après, eh bien, il y a des progrès, d'après le député qui était présent à l'UNESCO hier. Pour lui, le principal défi est surtout opérationnel. Comment associer les équipes de recherche en algorithmes avec l'industrie pour que demain, des champions européens de la santé ou de la voiture intelligente puissent se développer. Le point crucial sera de gagner la confiance des utilisateurs en accord avec nos principes, nos valeurs, de respect de la vie privée, de nos libertés. C'est le grand chantier de ces prochaines années.
Ce matin à Pékin, le Premier ministre chinois a ouvert la session de l'Assemblée nationale populaire, le grand rendez-vous politique annuel où 3000 délégués chinois ont le droit d'approuver tout ce que proposent les dirigeants. Cette année, dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise et de tensions avec les États-Unis, les dirigeants chinois vont devoir apporter des réponses parce que la politique agressive du président, le tout-puissant Xi Jinping, est contestée en interne. À Shanghai, les précisions de Simon Leplâtre.
Avec une croissance au plus bas depuis 30 ans et une guerre économique avec les États-Unis qui n'en finit pas, les défis sont évidents pour le pouvoir chinois. Les regards sont donc tournés vers les mesures qui seront prises en faveur de l'économie et de l'ouverture aux entreprises étrangères pour apaiser le courroux américain. Le président Xi Jinping en a-t-il trop fait contre les États-Unis? A-t-il voulu imposer la Chine comme une grande puissance trop tôt alors qu'elle n'en a pas encore les moyens? Certains le pensent en interne. Depuis un an, on entend des échos d'une contestation sourde au sommet du Parti communiste contre un président qui a accumulé tous les pouvoirs, qui a asphyxié la société civile et tous les canaux possibles de débat. Dans ce climat verrouillé, personne ne s'attend à des critiques ouvertes puisque plus personne n'ose parler. Les échos de ces tensions internes remontent grâce à quelques rares intellectuels bien connectés qui osent encore émettre des critiques. Alors pendant les deux semaines de l'Assemblée, il faudra guetter les bruits de couloir et lire les signes, les attitudes des officiels les plus haut placés. Lors d'un congrès fin 2017, pendant le discours de Xi Jinping, les bâillements prolongés de Jiang Zemin, ancien président, qui ne risque plus rien, avaient fait le bonheur des internautes chinois.
Le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles, l'homme est accusé du quadruple assassinat au musée juif de Belgique en mai 2014 et il s'est exprimé pour la première fois de façon très succincte. Il a réaffirmé son innocence, expliquant avoir été piégé. Il a ajouté de façon énigmatique « si c'était à changer, je changerais tout ». 19 organisations dont la CFDT, la Fondation Abbé Pierre et la Fondation Nicolas Hulot lancent un pacte du pouvoir vivre. Cette tribune comporte 66 propositions en faveur d'une politique plus sociale et écologique. Bonjour Bastien Roch.
Bonjour.
Les signataires entendent aussi faire bloc pour demander au gouvernement de partager le pouvoir.
L'union fait la force, c'est clairement le mot d'ordre des 19 organisations avec cet appel. En soi, dans ce pacte, rien de révolutionnaire au premier abord. Les axes majeurs des propositions sont ceux défendus depuis longtemps par ces organisations. Améliorer la transition écologique, chercher une fiscalité plus juste, réduire les inégalités et les discriminations, garantir l'accès au logement et à une nutrition saine. Ça, c'est le programme auquel les auteurs nous ont habitués. Mais pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT au micro de France Info ce matin, il y a aussi un message politique.
Le message, c'est que vous ne ferez pas sans nous. Pourquoi ? Parce que nos 19 organisations, elles représentent des millions de citoyens et que nous avons de l'expertise, des propositions, de la capacité de mobilisation. Ce qui est nécessaire aujourd'hui pour changer de paradigme dans notre modèle de développement, c'est de la mobilisation collective. Et cette mobilisation collective, elle se fait avec la société civile. Elle se fait avec les organisations, qu'elles soient syndicales, associatives, mutualistes. Vous savez, ce pacte, il s'inscrit dans le moyen et long terme aussi. Nous, ce qu'on propose, c'est une voie. Cette voie, on demande au gouvernement de l'écouter et de l'emprunter.
Les 12 dernières propositions insistent donc sur la nécessité de travailler avec les organisations telles que celles qui ont rédigé ce pacte, mais aussi directement donner aux citoyens plus d'opportunités de s'exprimer et de s'investir, à la fois dans la vie publique, mais aussi au sein de leur entreprise. Exemple avec la proposition d'inclure au Conseil économique, social et environnemental des citoyens tirés au sort, ou celle de porter à 50% la part des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance. En somme, ne plus laisser le pouvoir de décision aux dirigeants politiques et économiques.
Merci Bastien Roch. Et ces 66 propositions seront remises à l'exécutif dans le cadre du grand débat national. L'écart Macron a du mal à trouver leur équilibre économique. L'opérateur Transdev est en négociation exclusive avec l'allemand Flixbus pour lui céder ses activités d'autocars longue distance Eurolines et Easylines. C'est ce que les deux groupes ont annoncé hier. Les liaisons longue distance en autocar ont été libéralisées en France en août 2015 dans le cadre de la fameuse loi Macron, qui était alors ministre de l'économie. Mais le marché patine et la concentration s'accélère à Kim Kasmi.
Transdev justifie la cession de ses lignes françaises, Easybus et européennes avec Euroline par le manque de rentabilité. L'opérateur de transport pensait atteindre l'équilibre en 2018, mais il n'y est pas parvenu pour plusieurs raisons. À commencer par une forte concurrence. Il y avait au départ pas moins de 5 opérateurs qui s'étaient lancés frontalement sur les mêmes liaisons. Et pour attirer le plus grand nombre de clients, ils se sont livrés une véritable bataille tarifaire. Alors, si l'écart Macron censé redonner du pouvoir d'achat et sauver les petites lignes ferroviaires déficitaires ont certes permis de faire plus voyager les Français, le succès commercial est resté limité par rapport aux prévisions. Résultat, même la SNCF qui s'était lancée dans l'aventure a dû revendre sa branche autocar en novembre dernier à Blablacar, le champion de l'autopartage. Du coup, le grand gagnant de cette bataille des liaisons en autocar est l'allemand Flixbus qui a racheté la branche déficitaire de Transdev. Flixbus qui n'aura plus qu'un seul concurrent, le français Blablacar. Un constat qui nous montre qu'en matière de transport, la libéralisation peut aussi avoir ses limites.
Le tribunal de Tokyo a accepté la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn, mais le procureur a aussitôt fait appel pour que soit maintenu en détention l'ancien PDG de Renault. Un deuxième juge va examiner cet appel et son avis devrait être rendu rapidement. Midi passé de 46 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Notre invitée est la journaliste Marie-Pierre Rimbaud. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur d'un documentaire choc qui passe ce soir sur Arte à 20h50. Son titre, Religieuse, abusée, l'autre scandale de l'Église. Je propose pour commencer d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité.
Que l'on puisse me faire du mal, que je doive supporter la douleur, là n'était pas le problème. En revanche, que l'on puisse me priver de ma chasteté, cela m'était inconcevable.
Je faisais des fellations au père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe.
Violées par les messagers de Dieu, des servantes de l'Église sont chassées de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes.
Alors on l'aura compris, ce documentaire donne la parole à des religieuses de tous les continents abusées sexuellement par des prêtres. Il s'agit de femmes majeures. Mais ce qui frappe Marie-Pierre Rimbaud dans leur témoignage, c'est la similitude avec les abus pédophiles dans l'Église, l'utilisation d'arguments mystiques par les prédateurs et le silence de la hiérarchie.
Oui, tout à fait. C'est exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'on met sous emprise une personne a priori plus fragile ou dépendante d'un système. Les religieuses, on le sait, sont tenues à l'obéissance et elles sont plus ou moins contrôlées par leur directeur spirituel à qui elles sont censées faire part de toutes leurs intimes pensées. On peut imaginer jusqu'où ça peut aller, les intimes pensées. Donc ils posent des questions dans ce sens-là, ils connaissent tout de leurs victimes, ils connaissent leurs angoisses, leurs doutes et ils s'infiltrent là-dedans pour mettre leur emprise sur la personne et après la manipuler comme ils le souhaitent. C'est exactement pareil, je pense, pour les enfants et les prêtres pédophiles. On s'attaque à des personnes vulnérables.
Il y a chez elles une certaine naïveté, bien souvent. Elles ne connaissent rien de la sexualité et donc les prédateurs en profitent.
Je crois qu'il n'y a pas nécessairement une certaine naïveté. On les maintient dedans. Faut voir que la religieuse, elle se lève à 5h du matin Elle commence par préparer le petit déjeuner, puis il y a la messe, et puis elle fait les travaux, les corvées ménagères, préparer la nourriture justement des prêtres, balayer, etc. Et donc, toute la journée, elles sont dans la servitude, et le soir, à 9h, quand elles doivent aller se coucher, elles sont fatiguées, elles n'ont plus de recul sur ce qu'elles font, et surtout, il y a très peu de part dans leur emploi du temps réservé à l'étude spirituelle, religieuse, très très peu. Et pour moi et pour nous, Éric Quintin et moi, c'est volontaire, quoi. On veut absolument les mettre sous dépendance.
On retrouve un contexte proche des sectes, des communautés qui vivent en autarcie, un gourou charismatique?
Oui, oui, je pense que c'est... beaucoup de gens ont ce sentiment hein, que l'Église fonctionne un petit peu comme une secte.
Enfin là, il s'agit de communautés au sein de l'Église.
Voilà, de communautés au sein de l'Église. Mais ce mode de fonctionnement est quand même corroboré en haut lieu. C'est-à-dire que le Vatican savait, le Vatican sait, et on en a apporté la preuve, comme vous avez pu le voir dans le film. Donc c'est aussi tout un mode de fonctionnement qui n'est pas que dans ces communautés, qui est quand même protégé de très haut.
Parmi les communautés mises en cause, il y a l'Arche, qui est une communauté très connue chez les catholiques, qui s'occupe de personnes handicapées mentales. Et l'on découvre que l'un de ses créateurs, le père Thomas, recrutait pendant des décennies des jeunes femmes, religieuses ou non, pour en abuser. C'était quasiment un système.
Je crois que le système, il est partout, hein, partout dans le monde. C'est ce qu'on a voulu démontrer également. Le père Thomas, oui, fonctionnait de cette manière-là. Il avait été condamné en 1952 par Rome.
Bien avant.
Bien avant.
On savait.
On savait. 1952, et on a reconnu quand? Quand est-ce qu'il y a eu cette messe de réparation concernant les abus du père Thomas? En 2017? Vous imaginez le temps qui s'est écoulé? Tout le monde savait. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un système qui est propre au Père Thomas, au sein de l'Arche. C'est un système qui est propre à tout le mode de fonctionnement de l'Église catholique.
Malgré tout, l'Église, elle évolue sur cette question très lentement, mais elle évolue. Elle reconnaît désormais, mais à huis clos, ses viols et ses agressions, mais toujours à huis clos, elle veut toujours éviter à tout prix le scandale.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, si le pape François s'est exprimé récemment en rentrant d'Arabie Saoudite sur la problématique des religieuses abusées, c'est parce qu'ils sont très bien, lui et la curie, qu'ils n'ont plus tellement le choix. Ils sont obligés de reconnaître que ça existe. Mais ça fait combien de temps? Le premier rapport dont on a eu connaissance, nous dans le film, il date de 1994. Ça veut dire que Rome sait depuis 1994 qu'on abuse. Alors que vont-ils faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles. Il y a très peu d'actes.
La deuxième partie de votre documentaire est consacrée aux religieuses en Afrique. Là, vous dénoncez un quasi-système de proxénétisme clérical, des religieuses considérées comme des esclaves sexuelles.
Oui, alors cette partie du film a été faite par... la co-réalisatrice également de ce film, Elisabeth Drévillon. Donc, c'est elle qui a mené cette enquête et qui a réussi à avoir des informations tout à fait abominables. C'est-à-dire que effectivement, on a érigé en système la prostitution des religieuses et qui les prostitue auprès des prêtres, c'est souvent les mères supérieures. Donc, pour 1 euro, on va vendre une religieuse à un prêtre qui en manque. Et quand elle tombe enceinte, on le voit dans le film, on préconise l'avortement parce qu'on peut pas s'encombrer d'un enfant et qu'on ne veut surtout pas après s'encombrer d'une religieuse qu'il faudrait aider financièrement.
Des avortements forcés au sein de l'Église.
Oui, c'est quand même comique, enfin comique, le terme est mal choisi sans doute. Quand le pape dit
c'est cocasse.
Oui, c'est cocasse, voilà, vous avez tout à fait raison. Quand le pape dit que pratiquer l'avortement, c'est comme être un tueur à gages, mais qu'est-ce que fait l'Église dans ces cas de figure? Quand vous voyez qu'en Afrique, l'enquête d'Elisabeth l'a menée auprès d'une religieuse qui a été témoin d'un avortement à 8 mois de grossesse. Un avortement demandé par le prêtre qui était le père, demandé par la mère supérieure et cautionné par un médecin catholique.
Ces femmes qui ont témoigné, religieuses, anciennes religieuses, qu'est-ce qu'elles deviennent?
Alors, il faut voir que beaucoup ont été abîmées, très abîmées. On a le cas d'une jeune religieuse, ex, qui a 30 ans, qui a fait 30 tentatives de suicide, c'est quand même énorme. Elles ont été abîmées parce qu'elles ont été obligées de se taire. Parce qu'on ne peut pas lutter contre l'institution quand on est religieuse, ou on ne veut pas lutter contre l'institution, parce que c'est remettre toute sa vie en cause. Donc, quand elles sont abusées en tant que femmes, elles sont abusées en tant que religieuses, elles sont doublement abîmées dans leur spiritualité, dans leur corps, dans leur esprit. Et aujourd'hui, même si elles vont mieux, parce qu'elles commencent à parler, parce que il y a 3 ans, quand on a démarré l'enquête avec Éric Quintin, il y avait absolument rien sur ce thème-là. Rien du tout. Maintenant, ça, peut-être grâce, enfin, en raison des histoires de pédophilie, en raison de MeToo, peut-être que ça a donné du courage aussi à ces religieuses pour prendre la parole et réaliser enfin qu'elles n'étaient pas coupables, qu'elles étaient victimes. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe, elles se sentent coupables.
Merci à vous, Marie-Pierre Rimbaud. Et donc, leur témoignage est à regarder ce soir sur Arte, Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église. Ce soir, donc, sur la 7e chaîne à 20h50. Cet après-midi, la France sera coupée en deux, au nord de la pluie, au sud du soleil, température stable, 10 degrés à Amiens, 12 à Paris, 17 à Bordeaux, 20 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Stanislas Vazac.